Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, je reçois aujourd'hui Monsieur Romuald Dobzhinski, architecte, architecte associé de Cardam. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez un parcours d'architecte extrêmement développé, surtout sur la santé et particulièrement outre-mer. Vous avez travaillé sur des grands projets, des dispensaires. Est-ce que le fait d'avoir une expérience hors du territoire français donne quelque chose de plus, hein?
Alors oui, ça donne effectivement quelque chose de plus, puisqu'en fait, avoir travaillé en dehors de nos bases, ça nous permet de nous réinterroger, on va dire, sur la façon de voir et de conceptualiser un projet.
Alors est-ce que ça veut dire que pour la santé, par exemple, on ne fait pas le même hôpital, je ne parle pas du point de vue technique, mais du point de vue environnement, le même hôpital si on est à Mayotte ou si on est à Toulouse?
Exactement. Et même si on est à Nantes ou si on est à Strasbourg, c'est-à-dire que je pense que ça nous permet de bien comprendre que l'hôpital, c'est deux choses. C'est d'abord un programme technique, où là, tous les architectes de la santé savent répondre parfaitement à ce que peut être la logistique, les flux, les soins patients, etc. Par contre, il y a un point qui est très important, c'est le contexte. Et le contexte nous permet d'appréhender le bâtiment dans son environnement.
Ne serait-ce que du point de vue climatique, parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. La ventilation naturelle est très bien mise en œuvre, je suppose, à Mayotte, par exemple.
Alors, du point de vue climatique, c'est pas du tout la même chose. Et puis, ça le sera de moins en moins, parce qu'effectivement, avec le réchauffement climatique qui arrive et les projections qu'on a à 2050, il est indispensable aujourd'hui d'avoir des bâtiments qui se projettent sur une qualité du traitement de l'air.
Ça veut dire que même les bâtiments comme aussi techniques que les hôpitaux peuvent avoir une ouverture sur la ventilation naturelle?
Oui, oui, oui. Alors, pas partout, bien entendu, mais effectivement, toutes les zones où on va avoir de la dispensation, là, on peut très bien travailler sur de la ventilation naturelle à partir du moment où on traite ça avec une ingénierie qui a vraiment cette appétence à cette typologie de projet.
Alors, Cardam développe plusieurs projets et énormément de projets dans l'univers du travail. Je sais que vous êtes assez sensible au fait de faire correspondre le bien-être au travail du personnel hospitalier et le côté technique de l'hôpital. Comment on arrive à croiser les deux concepts, hein?
Ah, mais les deux concepts, non seulement il faut les croiser, mais en plus il faut les mettre en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a des machines à soigner qui sont extrêmement performantes, mais on s'est bien rendu compte avec la crise du Covid que le personnel était en souffrance, et que cette souffrance, ça s'appelait le bien-être au travail. Et le bien-être au travail, il y a deux points qui sont particulièrement forts, c'est le bien-être au travail d'un point de vue matériel, et le bâtiment fait partie de ce point matériel. Donc, tous les éléments que l'on peut mettre en place...
C'est-à-dire, excusez-moi, mais pour garder le personnel hospitalier à l'hôpital, il ne faut pas seulement mettre un peu plus d'argent sur la table en monnaie sonnante et trébuchante, mais il faut qu'il y ait des espaces de bien-être, de cocooning, pour pouvoir se relaxer.
Alors, il faut effectivement créer une communauté du travail, et effectivement, il faut qu'il y ait des espaces que les gens puissent s'approprier. Effectivement, des espaces de cocooning, bien sûr, mais il faut aussi que la représentation du bâtiment lui-même permette d'avoir une appartenance du personnel au lieu. Ça, c'est excessivement important.
C'est-à-dire pas nécessairement tout blanc, un peu atypique, hein.
Non, non, non. Le blanc, c'est très bien, c'est très hygiéniste. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait quand même de la chaleur. Et c'est pour ça que les architectes ne peuvent plus travailler seuls. Il faut qu'on travaille effectivement avec des plasticiens. Il faut qu'on travaille avec des gens qui nous permettent d'avoir une ergonomie du travail qui soit suffisamment élaborée pour que les gens se retrouvent dans des zones qui leur permettent d'avoir un certain confort du quotidien. Et le blanc, c'est très bien effectivement, mais il n'y a pas que ça.
Alors, on travaille aujourd'hui, vous avez travaillé spécifiquement aussi sur, sur un dispensaire et un centre hospitalier à Mayotte. Est-ce à dire que du coup, le fait d'avoir des populations qui sont extrêmement nombreuses, puisqu'il y a beaucoup d'enfants, donc des grandes familles qui viennent et se déplacent à l'hôpital, parce que l'hôpital, quelque part, c'est un espace public. Hein, c'est pas seulement un lieu public où on va se faire soigner, c'est aussi l'espace public. Comment fait-on pour faire en sorte que le personnel, là pour le coup, puisse trouver aussi son espace de respiration et ses marques,
hein ? Alors effectivement, non seulement les familles sont nombreuses et elles se déplacent en masse, et il a fallu à un moment donné réinventer les flux pour que justement il y ait cette capacité à pouvoir accueillir un grand nombre de personnes, et le temps et le climat là-bas nous permet effectivement d'avoir des grandes, ce qu'on appelle des varangues et des terrasses associées à des espaces d'attente qui permettent de sortir, on va dire, les gens qui viennent se faire soigner, des espaces de circulation interne qui, eux, du coup, sont dédiés au personnel soignant.
D'accord, donc ça veut dire que lorsque l'on est en salle d'attente pour attendre son médecin, on est à l'extérieur, sur une terrasse.
Oui. On est à l'extérieur sur une terrasse, alors pas forcément pas pour toutes les typologies de soins, mais en tout cas pour toute, on va dire, la médecine de ville, tout à fait, oui.
Alors, dans les hôpitaux de métropole, les anciens hospices avaient le jardin tel le cloître, hein, le jardin intérieur où on pouvait attendre et puis effectivement... être dans ce rapport à la ville qui était peut-être presque plus humain que maintenant. Aujourd'hui, l'hôpital, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, fermé pour des raisons de sécurité, pour des raisons diverses et variées, où le rapport avec l'extérieur est extrêmement petit, extrêmement régulé. Comment fait-on pour retricoter cette histoire, hein?
Il faut réinventer effectivement ces notions d'espace intérieur-extérieur avec la ville et retrouver cette dynamique et surtout permettre aux hôpitaux qui sont en cœur de ville de retrouver cette proximité avec l'extérieur. Alors effectivement, il y a cette partie fermée, mais rien ne nous empêche d'avoir des espaces tampons qui nous permettent de recréer cette dynamique entre la ville et l'hôpital.
Alors, je sais que le bien-être au travail du personnel est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, on a, on va dire, un nombre de personnes importantes, d'infirmières, de soignants, qui, à l'issue du Covid, ont décidé de changer d'orientation professionnelle. Demain, le Grenelle fait qu'il y a un certain nombre d'argent, on va dire, qui est mis sur la table. Mais est-ce que ça suffit pour faire revenir le personnel et lui apporter de quoi, j'irais, avoir envie de rester quelque part ?
Ah ben, ça va être tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'il va falloir à la fois leur apporter un peu plus d'argent, mais ça... Nous, en tant qu'architectes, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais par contre, sur la partie, on va dire, bâtiment, il va falloir absolument recréer cette dynamique qui va permettre d'avoir un sentiment d'appartenance entre le personnel de santé qui soit fier d'aller au travail au travers une façade, au travers des lieux de circulation, de déambulation, qui vont lui permettre de se dire « je suis dans un bâtiment d'excellence ». D'excellence à la fois technique, mais d'excellence à la fois aussi d'accueil du public et d'accueil de son personnel.
Alors, j'entends ce que vous dites. Ça veut dire que, quelque part, la façade doit être vraiment le reflet de l'identité de l'hôpital, différente de l'hôpital de la ville d'à côté ?
Oui, alors on a souvent entendu... j'entends souvent, quand je vais voir les directeurs d'hôpitaux, que l'argent, ils ne veulent pas le mettre sur la façade, mais qu'ils veulent le mettre dans la technique. Ils ont raison, parce que la technique est indispensable. Mais pour autant, la façade est le reflet de ce que veut dire leur bâtiment. Et le reflet d'un contexte. Et les gens ont envie de se retrouver à travers cette façade-là. C'est pour ça qu'il me semble que, effectivement, quand on va réaliser une façade sur un bâtiment hospitalier à Nancy, elle ne peut pas être la même que celle de Toulouse et elle ne peut pas être la même que celle de Mayotte.
Alors pourquoi, donnez-moi des exemples un peu plus, si je puis me permettre, significatifs, dans quoi, voilà, demain vous faites un bâtiment hospitalier à Toulouse, après-demain à Strasbourg, pour vous c'est quoi le concept de la façade différente ?
Le concept de la façade différente, c'est d'abord de bien comprendre son environnement, de bien comprendre qu'est-ce que l'architecture régionale, et non pas d'en faire un pastiche, mais d'en faire...
Oui, rassurez-moi, on ne va pas faire des colombages alsaciens sur les... C'était une boutade, mais c'est juste qu'effectivement...
Non pas en faire un pastiche, pas des colombages, mais de comprendre ce qu'en fait l'essence et ce que fait et ce qui est dans l'imaginaire des gens de la localité, et d'essayer de retranscrire dans une architecture moderne. Voilà.
Alors, c'est intéressant. Il y a d'autres exemples. Aujourd'hui, il y a une très belle exposition en ce moment au pavillon de l'Arsenal à Paris. Je pense que vous aurez l'occasion de la voir. Et je demande aux auditeurs de prendre ce temps d'aller la voir parce que c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Il y a des bâtiments qui développent, comme l'Institut Imagine, l'ADN, puisque c'est un centre de réflexion sur les maladies orphelines des enfants, l'ADN est gravé en sérigraphie sur la façade. Donc cette image de l'hôpital et de sa façade dans la ville et pouvant être identifiée comme en osmose quelque part avec la ville et avec les habitants, comment fait-on pour inciter les directeurs d'hôpitaux à vraiment travailler avec les architectes sur ce point-là, peut-être autant que sur la technique ?
Je pense qu'il faut beaucoup parler, il faut aller les voir, c'est ce que l'on fait, et leur expliquer que mettre de l'argent dans une façade, c'est pas forcément perdre de l'argent. C'est également avoir un pouvoir d'attractivité à la fois sur le personnel, puisqu'ils ont des difficultés d'embauche aujourd'hui, de personnel, ils en recherchent, et aussi d'excellence vis-à-vis de la population. Si les gens se reconnaissent dans un bâtiment, à travers ce qu'on a pu vouloir raconter et l'histoire qu'on a voulu apporter justement à cette façade, et pas seulement à la façade, c'est quand on rentre, les halls d'accueil et puis toute la déambulation qu'il peut y avoir derrière. Si on arrive à leur raconter une histoire qui leur parle, à ce moment-là, ce bâtiment deviendra un bâtiment d'excellence, autant par sa technique que par son pouvoir d'attractivité.
Donc, demain, on essaye de faire aussi des économies d'énergie, d'avoir effectivement de la ventilation naturelle au maximum, d'avoir un rapport entre la nature et le bâti qui soit un petit peu plus prégnante. Comment fait-on pour justement garder cette essence de l'hôpital technique et puis l'humaniser ?
Je pense que le low-tech est quelque chose qui est... Qui est en devenir, parce qu'effectivement, la technique, le low-tech, c'est de la technique, c'est-à-dire c'est réfléchir à comment on peut faire pour consommer moins. Mais ça ne veut pas dire consommer moins dans un sens où on va avoir plus de froid, où on va avoir des différences de température, par exemple, qui peuvent être désagréables. Non, c'est de réfléchir à ce qu'un bâtiment d'une technique qui était folle et qui était consommatrice d'énergie à outrance, puisse, avec un minimum d'efforts, nous permettre de retrouver cette qualité de confort. Voilà. Et c'est le confort ressenti qui est le confort.
Mais aujourd'hui, les AMO qui vous aident à faire qui font des cahiers des charges de programmation pour des consultations d'hôpitaux sont à même d'intégrer ça d'ores et déjà dans les cahiers des charges, il ne me semble pas.
Alors c'est très très intéressant, le 18 mars, donc il y a Hôpital Expo, et je serai en conférence avec Elisabeth Lécureuil d'A2MO, justement, pour discuter de comment les architectes et les AMO vont pouvoir essayer de travailler ensemble pour intégrer un certain nombre de données qui soient des données autres que, effectivement, les données uniquement programmatiques.
D'accord, donc ça veut dire qu'il va y avoir... vous pouvez me redonner la date ?
C'est le 18 mai.
18 mai.
À 15h15.
D'accord, parce que j'avais cru entendre un autre, autre chose, un autre mois, donc 18 mois.
Je 18 mai.
Donc du coup, aujourd'hui, on se dit donc, que dans, voilà, dans une quinzaine de jours, il va y avoir cette exposition et ce groupe de travail avec des conférences. Les AMO et les architectes et voilà, ceux qui font les programmes des hôpitaux de demain vont se réunir. Est-ce que ce dialogue se fait aussi avec les médecins? Est-ce que ce dialogue se fait aussi avec une partie de la population? Est-ce qu'il y a, on va dire, une espèce de synergie?
Oui, je pense qu'une synergie est en train de se mettre en place parce que les gens ont bien compris que ce qui faisait l'essence de l'hôpital hier n'est plus du tout en phase avec le monde actuel. Et notamment... La façon dont les gens aspirent à vivre et comment les gens ressentent le travail et, le reste du temps à vivre.
C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait un cahier des charges d'hôpitaux, on sait que malheureusement, il est mis en œuvre, on va dire, 2 ou 3 ans après, entre le moment où on fait le cahier des charges et puis il est ouvert, enfin, il se passe 4-5 ans.
Parfois 10 ans.
Comment fait-on pour aller plus vite? Comment fait-on pour se dire qu'au fond, bon, aujourd'hui, le cahier des charges, on va le faire en mettant de la clim partout ou en tout cas mélangeant peut-être un petit peu de ventilation naturelle, mais très peu, parce qu'on n'est pas capable de se dire comment ça va être dans 10 ans, même si on peut avoir des vœux, on ne sait pas. Comment fait-on pour avoir cette espèce de flexibilité, de réversibilité, de programme à deux niveaux qui fait qu'on projette aujourd'hui un hôpital 100% climatisé et qu'on sait que demain, on ne pourra pas faire autrement que d'ouvrir cet hôpital, le même hôpital qui aura été programmé, etc., avec 50% de moins de factures énergétiques.
Alors la projection à 10 ans, on est capable de la faire. Donc c'est aujourd'hui plutôt expliquer aux décideurs que cette projection à 10 ans, il faut absolument la prendre en compte.
Maintenant.
C'est primordial pour notre planète de se projeter à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, jusqu'à 2050. Il faut se projeter à 2050 aujourd'hui pour se dire on va avoir une augmentation de la température d'un degré, 2 degrés. Et il y a des experts aujourd'hui qui sont capables de nous dire quels sont les moyens à mettre en place pour justement travailler sur un bâtiment low-tech qui va nous permettre d'avoir un confort ressenti qui soit aussi performant que ce que l'on fait aujourd'hui avec beaucoup de climatisation.
Donc on attend beaucoup du 18 mai. Vous attendez beaucoup du 18 mai, non ?
Énormément. Bon. Parce que à la fois, on va pouvoir parler avec les animaux.
Mais vous n'allez pas avoir encore de ministre de la Santé, si ? Peut-être pas le bon.
On fera d'autres conférences.
D'accord.
On essaiera de porter notre
la bonne parole, je suppose que effectivement, selon les ministres et selon les souhaits de Bercy, les arbitrages budgétaires en matière d'hôpitaux sont quand même des arbitrages extrêmement compliqués.
Oui, mais aujourd'hui dans l'écologie, de ce que j'ai compris, c'est qu'on allait avoir un premier ministre qui allait être en charge de l'écologie. Donc j'imagine que le ministre de la Santé aura une sensibilité forte sur les projections à 2050 quant à la capacité à construire mieux.
Bah écoutez, je trouve que c'est un vœu pieux formidable et c'est une belle manière de se dire que vivement le 18 mai et surtout vivement votre futur ministre de la Santé qui va être à l'écoute de ses besoins parce que c'est extrêmement important pour les populations et pour les soignants et pour tout le monde.
En tout cas, on essaiera de le convaincre, ça c'est certain.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir, chers auditeurs, à bientôt.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.